Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à l'histoire des protestantismes dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, nous débattons de l'attribution des lieux de culte au XVIe, XVIIe siècle. Après avoir évoqué lundi la place des protestants français dans la Seconde Guerre mondiale, puis mardi dans le documentaire écouter les témoignages des réfugiés qui ont fréquenté dans les années 70 le centre de la CIMAD à Massy en région parisienne, et hier débattu de la façon dont les protestants racontaient leur propre histoire, nous allons ce matin nous demander comment s'est réglée la question de l'attribution des lieux de culte au XVIe, XVIIe siècle en France et dans l'espace germanique. Où les protestants ont-ils été autorisés à installer leurs lieux de culte? Quand et où ont-ils été obligés de partager leur temple avec des catholiques? Bref, comment ont-ils été autorisés à sortir d'une pratique religieuse privée avant et après l'édit de Nantes? C'est ce que nous verrons avec Catherine de Copé, qui a préparé cette semaine avec nous, et nos trois invités. Olivier Christin, il est professeur d'histoire moderne à l'université de Neuchâtel. Il est accueilli dans les studios de nos confrères de la radio suisse à Lausanne, que nous remercions. Il est spécialiste des réformes et de la paix de religion. Jérémy Foix sera avec nous au téléphone. Il est maître de conférence à Aix-Marseille, et nous aurons également avec nous Luc Desraux. Il est docteur en histoire, auteur d'une thèse qui s'intitulait « Réduire les Huguenots, protestants et pouvoir en Normandie au XVIIe siècle », une thèse parue chez Champion. Bonjour Catherine de Copé.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour à vous Luc Desraux.
Bonjour à vous.
Bonjour Jérémy Foix, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous au téléphone. Et bonjour à vous Olivier Christin, vous êtes en duplex depuis les studios de la radio suisse à Lausanne. Merci d'être avec nous. Alors Olivier Christin, si on commence au milieu du XVIe siècle, au moment où la réforme s'installe et se développe en Europe, est-ce que cette question de l'attribution des lieux de culte et avant les guerres de religion est une question tendue, difficile ou pas?
Oui, c'est une question majeure. Et elle n'est pas propre à la situation des Huguenots en France, mais elle se trouve aussi dans l'Empire, en Suisse. À partir du moment où les communautés protestantes grossissent et commencent à être visibles dans l'espace urbain, se pose la question des lieux où elles peuvent célébrer publiquement, comme vous l'avez dit, publiquement leur culte. Et donc c'est en lien aussi avec l'apparition visible des communautés au grand jour et donc avec le mouvement iconoclaste.
Voilà. Oui, alors donc il y a, vous avez travaillé sur ce mouvement iconoclaste, il y a donc tant que la religion qui s'appellera plus tard prétendue réformée, qui sera qualifiée ainsi par les catholiques français, donc tant que la religion reste dans l'espace privé, ça se passe relativement bien, c'est cela Olivier Christin?
Non, pas spécialement.
Non, mais justement, c'est une question que je pose.
Oui, oui, absolument. Non, ça se passe pas spécialement bien, c'est une histoire. Je crois qu'il faut distinguer le cas de la France et des Pays-Bas, d'un côté où c'est une histoire longue et faite d'une longue période de persécution avant l'éclosion des guerres, et puis l'histoire de l'Empire et de la Suisse, où les communautés protestantes se manifestent très rapidement, et là on a plutôt un effet de réforme locale, de réforme communale, avec pris en charge par des magistrats, et donc une utilisation très rapide des lieux de culte, soit confisqués aux catholiques, soit partagés et réaménagés.
Catherine
donc,
de Copé.
C'est vraiment deux histoires très différentes au fond. La chronologie est pas la même. Je dirais pour l'Empire et la Suisse, c'est l'affaire des années 20 et 30. Et pour la France, c'est plutôt une histoire sur les lieux de culte qui commence à se dérouler dans les années 60, 50-60. Et les Pays-Bas aussi.
Olivier Christin, pour le Saint-Empire, on a donc beaucoup plus tôt cette question de la coexistence confessionnelle, mais il faut savoir qu'on est dans l'impossibilité à ce moment-là de bâtir des nouveaux édifices. Hein. C'est ça aussi concrètement ce qui se passe.
Alors concrètement, effectivement, la réforme protestante progresse très très vite dans l'Empire. En gros, des territoires sont déjà passés, des villes largement passées à la réforme dans la deuxième moitié des années 1520. Donc ça va très vite après la guerre des paysans. Et par exemple, dès 1529-30, un certain nombre de territoires, la Saxe ou un certain nombre de villes, refusent de suivre la politique de persécution de Charles Quint. Mmh. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que les communautés protestantes qui sont majoritaires dans certaines villes, on pourrait dire, ou très très bien implantées, Strasbourg dans les années 30, Nuremberg, Augsbourg, elles sont déjà très visibles, ça pourrait être Leipzig, voilà, les communautés protestantes se développent très vite, ou Brême, par exemple, demandent des lieux de culte, et on n'a pas le temps de construire des lieux de culte d'une grande importance pour accueillir ces nouveaux fidèles. Donc la question se pose de récupérer les lieux de culte catholiques ou de s'emparer des lieux de culte catholiques.
Alors, s'emparer, ça veut dire par la force, parce qu'on a connu des cas plus tard en France, effectivement, qui étaient liés au calvinisme et à l'iconoclasme, mais dans cet espace luthérien, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est une façon de prendre les lieux de culte par la force ou de négocier justement pour pouvoir, par exemple, se partager des lieux de culte, ce sur quoi vous avez travaillé, Olivier Christin?
Alors en fait, tout est affaire de rapport de force locale et de choix du magistrat, c'est-à-dire des autorités municipales. Dans certains cas, c'est s'emparer par la force. Et on connaît l'épisode de l'hiver 1522 et du conflit entre Karlstadt et Luther. Luther est caché dans le château de la Wartburg, il se fait passer pour un certain chevalier Junker Jorg, et c'est là où il se lance dans la traduction du Nouveau Testament, etc. Et pendant ce temps-là, Karlstadt prend en main la ville de Wittenberg, la ville de Luther, et encourage les étudiants de la ville à un mouvement iconoclaste radical à l'intérieur de l'église du château. Voilà. Mmh. Et Luther sort de sa retraite, vient et condamne Karlstadt. Donc là, on a bien un épisode de purification des temples par la force. Mmh. Et beaucoup d'épisodes pourraient être cités en Suisse aussi. Les groupes protestants rentrent dans les églises, insultent les prédicateurs, empêchent le culte de se dérouler, crient, chantent, etc. Donc il y a des appropriations violentes. Mais il y a d'autres cas. Par exemple, à Nuremberg, où la population est majoritairement très vite protestante, mais le magistrat reste attaché aux grandes familles catholiques et aux patriciats catholiques, et donc essaye de moyenner, de trouver un chemin entre les deux, maintenant certaines œuvres d'art, par exemple, ou certaines chapelles des grandes familles, pour des raisons de stratégie politique et nobiliaire.
Et c'est d'ailleurs
donc, c'est plutôt un partage.
Et c'est d'ailleurs très intéressant, cette question du partage, parce que à qui a-t-on attribué le cœur? Plutôt, si c'est le cœur, c'est plutôt catholique. Parfois, à qui va-t-on attribuer la nef, puisque la nouvelle liturgie transforme, pourrait-on dire, la façon de pratiquer le culte, et on va plutôt l'attribuer, cette nef, aux protestants, en partageant, gardant le jubé, le laissant tomber, construisant un mur à la place, pour pouvoir justement, dans le même édifice, avec des entrées différentes, et bien permettre la pratique de deux cultes différents, soit simultanés, soit successifs, Olivier Christin.
Oui, alors après, effectivement, ça pose des problèmes concrets de partage du temps ou de partage des lieux de culte, d'aménagement de l'espace liturgique. Est-ce qu'on garde les autels? Est-ce qu'on met une table pour célébrer la scène devant l'autel, puisqu'il faut célébrer la scène face aux auditeurs et pas le dos tourné? Où est-ce qu'on met la chaire? Donc il y a beaucoup de débats, par exemple à Augsbourg, dans les années 1530, où les catholiques et les protestants partagent les églises, se disputent, se chamaillent, il y a des bousculades. Comment on aménage l'espace? Et si les auditeurs veulent faire un voyage dans l'histoire et se rendre compte de ce que ça pouvait être, on peut faire un voyage dans cette très jolie petite ville des Vosges qui s'appelle la Petite Pierre, où il y a aujourd'hui encore, c'est pas trop loin de Célestat, où il y a aujourd'hui encore un simultanéum entre luthériens et catholiques. Le culte luthérien se déroule, je crois, le matin à 9h ou 10h. Le culte catholique prend immédiatement la suite.
La petite
Donc
pierre.
Donc là, on a un exemple de partage.
Catherine de Copé.
Olivier Christin, vous parlez des traces architecturales et concrètes de ces églises qu'on a appelées les églises simultanées. Mais alors, ce qui est plus difficile peut-être à rendre quand on fait de l'histoire, c'est la question aussi de ce qui se passait, par exemple, au niveau sonore dans une ville. Vous parlez des cloches. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on partage une église avec les cloches, finalement?
Alors, en général, c'est assez compliqué l'histoire des cloches, mais c'est un gros objet que Jérémy Foa et Olivier reconnaissent sans doute. Mais c'est un objet très sérieux. Et dans les cas de villes mixtes, on a des accords, on connaît les textes d'accords entre les deux communautés, décidant, par exemple, de partager l'usage des cloches en période de paix. Alors, décidant, par exemple, que les cloches ne pourront servir qu'à des usages civiques, appeler la population en cas de danger, sonner en cas d'incendie, de tempête ou de menace. Mais effectivement, on peut aussi, dans d'autres cas plus conflictuels, où la coexistence se passe mal, avoir des usages confessionnalisés et partisans des cloches. Par exemple, en sonnant systématiquement le tocsin pour ameuter les foules catholiques, ou en sonnant les cloches à toute volée pendant la durée du sermon du pasteur protestant pour que personne ne puisse entendre ce qu'il dit. On peut imaginer plein d'autres usages, évidemment, qui vont être faits, puis aussi tout un iconoclasme protestant autour des cloches qui vont être démontées, fondues, utilisées pour faire des boulets d'artillerie. Je crois que c'est le cas du baron des Adrets à Lyon. On a une petite vignette illustrée qui montre ça. La destruction des cloches de l'église Saint-Just par les Huguenots.
Le plus difficile, peut-être, Olivier Christin, je donnerai la parole ensuite à nos deux autres invités, le plus difficile, c'est peut-être, effectivement, d'imaginer que la nouvelle liturgie, cette liturgie donc des réformés, oblige à transformer quand même considérablement ces lieux de culte traditionnels dans les villes d'Europe de l'époque, parce que effectivement, on met l'accent plutôt sur la prédication que sur l'Eucharistie. Donc la question de l'autel est une question bien différente dans la nouvelle religion que dans l'ancienne. Et cela va obliger progressivement aussi à construire des nouveaux temples qui ont une autre architecture que l'architecture qu'on imaginait pour les églises chrétiennes auparavant.
Oui, c'est exactement ça. Au fond, il y a deux questions qui sont distinctes. L'une, c'est la place visible, manifeste et publique des communautés religieuses dans l'espace urbain. Avoir un temple ou pas, avoir une église ou pas. Par exemple, pour les catholiques en Hollande, qui célèbrent leur culte dans des maisons privées, mais tout le monde sait que c'est au fond une église clandestine. Mmh. Voilà, beaucoup de gens arrivent le dimanche, tout le monde le sait plus ou moins. Puis la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on fait des bâtiments? Et effectivement, les bâtiments ne peuvent pas être aménagés de la même façon pour les différentes communautés religieuses. Il y a des différences très fortes entre catholiques et luthériens, et entre luthériens et calvinistes. Voilà, on ne peut pas les comparer ces aménagements. Alors, la différence entre catholiques et protestants, c'est la place de l'autel, la place de l'Eucharistie, la centralité des reliques, la célébration de la messe d'eau tournée à l'assistance.
La disparition du tabernacle pour les protestants par rapport aux catholiques, la place de la chair aussi.
Et la place de la chair. Donc, du côté protestant, c'est l'insistance sur la parole de Dieu, sur la prédication, et pas sur la messe, et donc plutôt des architectures centrales, des aménagements urbains centralisés autour de la chair, comme on le voit par exemple dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle, ou dans cette image célèbre qui représente le temple de paradis à Lyon en 1564, où ce qui compte c'est la chair à prêcher et la disposition des bancs autour de la chair. Et donc il y a des conflits très très forts intra-communautaires autour des bancs, des préséances, des places assignées à chacun, y compris dans le protestantisme. Et puis, il y a une autre question qui est la place de l'enterrement à Sanctos, c'est-à-dire des tombes à l'intérieur de l'espace liturgique ou pas, et la place des images. Et donc, dans le cas luthérien, par exemple, on va garder des images, mais en les mettant, par exemple, on le voit très bien dans les églises de Nuremberg aujourd'hui, il reste des images antérieures à la Réforme. Mais elles sont souvent très hautes dans la nef ou sur les murs, et donc ne peuvent pas être objets de culte. Donc elles sont là que pour mémoire et pour la mémoire des familles patriciennes. Voilà des vraies différences entre les confessions, alors que par exemple dans le calvinisme, il n'y aura pas d'image du tout, même pas la croix.
Jérémy Foa, vous êtes avec nous au téléphone et vous êtes spécialiste justement de cet espace dont vient de parler Olivier Christin, espace urbain en particulier. Vous avez écrit un article fort intéressant, entre autres dans la revue Histoire Urbaine, donc c'était en décembre 2014, autour du cas d'Orléans, et vous expliquez parfaitement bien comment... la guerre de religion à Orléans et les conquêtes et reconquêtes successives des protestants et des catholiques a fini par faire un espace urbain assez bouleversé, en particulier dans l'attribution justement des lieux de culte aux protestants. Où ont-ils le droit de pratiquer? Dans quel type de bâtiments? Dans des granges? Dans des nouveaux temples? Ont-ils le droit de pratiquer à l'intérieur de la ville, des remparts ou à l'extérieur? Tout cela, ce sont des questions qui se sont posées très régulièrement dans une ville comme celle-ci sur une bonne cinquantaine ou soixantaine d'années, Jérémy Foa.
Oui, le cas d'Orléans permet bien de faire la transition avec ce que Olivier Christin vient de dire. En France, c'est une chronologie plus tardive, c'est une histoire qui commence vers 1560, et Orléans, c'est un cas effectivement assez parlant, puisque peut-être la population réformée en 1560, c'est la moitié de la ville. Mmh. Et en 1560, ils n'ont rien, c'est-à-dire qu'il y a 30 églises paroissiales, catholiques, il y a des couvents, il y a des croix de carrefour, il y a une domination spatiale catholique évidente. Et les protestants, qui souvent sont des notables, qui sont nombreux en 1560, n'ont rien.
Ils vont dans des granges. Ils vont dans des granges.
Exactement.
Et d'ailleurs, ça participe de l'exhibition, pourrait-on dire, de leur religion, puisqu'ils sont bourgeois, mais ils vont dans des granges un peu crottées, dans des endroits qui ne sont pas faits pour eux, et pour montrer effectivement comment, tout bourgeois qu'ils sont, ils peuvent justement aller dans des endroits beaucoup plus pauvres que les catholiques, leurs voisins.
Oui, tout à fait. Dans ces débuts des années 1560, ce qui caractérise le protestantisme français, c'est qu'il est clandestin, et donc c'est des lieux infamants. Des caves, des greniers, des granges, des endroits éloignés, où effectivement il va y avoir une manifestation de la part de ces notables de la dignité de leur religion, malgré l'indignité du lieu. Mmh. Comprendre vraiment les guerres de religion, c'est comprendre que les protestants ont faim d'espace et sont dominés spatialement par le catholicisme qui, effectivement, écrase tout au niveau du paysage urbain.
Jérémy Foa, cette indignité du lieu est totalement récupérée finalement dans le discours catholique pour railler les Huguenots finalement, les protestants.
Alors évidemment c'est un point qui est assez important puisque les polémistes catholiques vont assimiler l'indignité du lieu à l'indignité de la religion. C'est-à-dire si les protestants choisissent de prier dans des caves, de prier dans des cimetières, de prier dans des halles, eh bien c'est parce que leur religion est indigne. Or, en réalité, bien sûr, il ne s'agit pas d'un choix. Il s'agit d'une religion qui, dans une situation contrainte, prie là où elle peut.
Oui. Et là, là où elle peut, dans un contexte où les processions catholiques annuelles sont nombreuses, il y en a 8 à Orléans, dites-vous, Jérémy Foa, les funérailles catholiques sont aussi très exposées dans l'espace public, et on leur montre effectivement que, comme vous l'avez dit à l'instant, l'espace public est dominé par le catholicisme.
Oui, tout à fait. C'est le contraste, effectivement, entre une puissance démographique. Hein. Les protestants, dans les années 1560, c'est peut-être 10% du Royaume de France. Et puis, une absence, une invisibilité dans l'espace. Ça, c'est la situation en 1560, au moment où Catherine de Médicis, avec son chancelier Michel de l'Hospital, décide de faire cette révolution qui est la légalisation du protestantisme français et le droit de culte.
Catherine de Copé.
Oui, alors ces édits de pacification, qui vont s'appeler comme ça, finalement vont instaurer une paix, mais qui n'est pas synonyme, à Orléans notamment, de réconciliation. C'est-à-dire c'est une organisation du culte et de l'espace, sans forcément que la querelle soit achevée, bien entendu.
Les édits de pacification, ils sont intéressants en ce sens, qu'ils permettent de poursuivre la guerre par d'autres moyens. C'est-à-dire qu'effectivement, on fait la paix. On fait la paix en janvier 1562, et puis en mars 1563, et puis en août 1570. Donc, on n'a plus le droit de s'entretuer. Et on va se servir de l'espace, c'est-à-dire de la distance des temples, pour continuer la guerre. Concrètement, on ne peut plus tuer les protestants, mais on va les envoyer prier le plus loin possible, en implantant leurs temples loin des grosses villes, dont les protestants sont originaires essentiellement.
Et pour Orléans, par exemple, ça sera du côté de Sancerre ou de la ville de Maillé, qui sont l'une à 100 km et l'autre à 148 km d'Orléans, c'est cela ?
Voilà, effectivement, on a des cas comme ça qui sont tout à fait étonnants. Dans le bailliage de Dijon, par exemple, les protestants doivent aller prier à Nuit-Saint-Georges, 29 km. Bailliage de Limoges, ils doivent aller prier à Userche, 56 km. Alors évidemment, pour nous, cette distance, ça paraît peu. Évidemment, à l'époque, ça se fait à pied. 27 km aller, 27 km retour. Concrètement, au moment même où on légalise le protestantisme français, on le rend impraticable.
Mais ce qui est particulier avec le cas d'Orléans, c'est que cette ville est prise et reprise successivement par les protestants et les catholiques, et qu'entre ces traités de pacification, il y a aussi des conquêtes et des reconquêtes, qu'il y a des scènes d'iconoclasme, donc en particulier donc des scènes d'iconoclasme dont vous dites qu'elles sont, comme l'a dit d'ailleurs Olivier Christin dans certains de ses livres, qu'elles sont sélectives, on choisit ce que l'on va casser dans les églises par exemple, et après, une fois la reconquête catholique intervenue, vous expliquer qu'on va installer les statues de Jeanne d'Arc ou les statues de Notre-Dame dans des lieux bien particuliers pour qu'on puisse marquer auprès des protestants la victoire catholique sur eux-mêmes.
Oui, tout à fait. L'espace, c'est un des lieux où les violences symboliques s'exercent le plus efficacement. Et donc, il va y avoir un discours de la domination de l'une ou de l'autre confession qui se sert de l'espace. Alors, des statues, effectivement, statues de la Vierge, ou quand les protestants sont dominants, effectivement, une des violences symboliques, c'est l'iconoclasme, qui permet de marquer l'appropriation d'un territoire. Bon, bien sûr, l'iconoclasme, c'est Olivier Christin, le grand spécialiste.
Bien sûr. Catherine de Copé.
Luc Desraux, vous avez travaillé en particulier donc sur la Normandie. Est-ce que à cette période-là, on note aussi finalement cette guerre des signes avec aussi donc les édits de pacification, on peut le rappeler, autorisaient les Huguenots à ne prier que dans les faubourgs. Hein. C'était l'idée du faubourg. Est-ce qu'on retrouve cela en Normandie?
Peut-être d'abord, je pense que ce qui est très important vraiment de souligner, c'est le rôle de ces édits de pacification, à commencer par l'édit de janvier que mentionnait tout à l'heure Jérémy Foy. C'est très important. En fait, tous ces édits, l'édit de janvier 1562, l'édit d'Amboise de 1563, puis tous ceux qui suivent dans les années 1560-1570, vraiment, il y a une idée fondamentale qui va se retrouver dans l'édit de Nantes, c'est qu'on est vraiment sur deux piliers. Il y a une liberté de conscience qui va devenir finalement totale, et d'un autre côté, il y a une liberté de culte qui, elle, sera toujours conditionnel, en fait. Et c'est ça, vraiment, on va marcher sur ces deux piliers. Quand le protestantisme est légal, il y a des moments pendant les guerres de religion où il ne le sera pas, c'est vraiment sur ces deux piliers que les choses reposent. Il n'y a qu'une exception à ça, je voudrais juste la mentionner en passant, c'est l'édit de Paris de 1576 qu'on appelle la paix de Monsieur, souvent, et qui est assez atypique parce que là, on reconnaît une liberté de culte universelle, mais ça va être une exception et ça va vite être effacé. Donc effectivement, ça, on retrouve ça en Normandie, mais partout en fait. C'est-à-dire qu'il y a une partition de l'espace et effectivement, les temples sont souvent, surtout pour Rouen par exemple, dans les grandes villes, là il y avait un archevêque, il était tout à fait hors de question d'avoir le temple à l'intérieur de la ville rouennaise. Alors, le problème, c'est que
Ces villes rouennaises, expliquez-vous, sont des cœurs du protestantisme. C'est un cœur du protestantisme. Rouen, Dieppe ou d'autres villes sont ou Caen sont des villes très importantes pour les protestants de Normandie.
Tout à fait. Mais c'était pas possible. Alors, on est surtout renseigné, en fait, pour les choses, pour le début du XVIIe siècle, parce que les lieux de culte au XVIe siècle, c'est souvent compliqué, hein, hormis le passage des guerres de religion qui est encore plus complexe. Mais on voit bien qu'au début du XVIIe siècle, le temple, il est bâti à Quevilly, à Grand-Quevilly aujourd'hui. Donc il faut traverser la Seine. On est rive gauche de la Seine. C'est complètement autre chose, hein, évidemment.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
La fabrique de l'histoire, donc, qui continue et termine sa semaine consacrée à l'histoire des protestantismes en évoquant aujourd'hui la question de l'attribution des lieux de culte au XVIe, XVIIe siècle pour les protestants en France, mais également dans l'espace germanique. Jérémy Foy, ce que vient de dire Luc Desraux, traverser le fleuve, c'est une question importante et vous l'appliquez aussi pour Orléans. La Loire doit être aussi traversée par les protestants et justement, sur le passage qu'ils empruntent, à savoir le pont, eh bien, on va installer une statue de la Vierge et une statue de Jeanne d'Arc pour bien leur rappeler effectivement à qui appartient l'espace public, en l'occurrence, Jérémy Foy.
Oui, l'espace permet des humiliations, permet des humiliations, alors par les statues que vous venez de mentionner, mais par le simple fait de se déplacer, c'est-à-dire sortir de la ville, sortir du prestige du centre-ville, franchir les murailles, et puis sortir dans ces lieux qui sont des lieux nouveaux, qui sont des lieux des nouveaux arrivants, qui sont les lieux les plus pauvres comme les faubourgs, c'est une humiliation, c'est une violence d'espace. Très souvent, les enfants se postent sur les murailles et lancent des excréments aux protestants qui passent les murailles à ce moment-là. Très souvent aussi, les protestants qui doivent franchir les murs pour aller prier au faubourg, quand ils reviennent, trouvent les portes fermées. Humiliation et puis mise en danger. Alors, mise en danger, on a parlé du fleuve. On a plusieurs exemples comme ça, effectivement, où les protestants doivent franchir un fleuve ou une rivière pour aller prier, et leur barque en chemin chavire. Mmh.
Sans compter que le fleuve, pendant les massacres de la Saint-Barthélemy à Orléans, qui, dites-vous, ont été les plus sanglants après ceux de Paris, eh bien, le fleuve va servir aussi pour se débarrasser des cadavres des protestants, en l'occurrence, Jérémy Foy.
Oui, bien sûr, comme à Paris, hein, on sait qu'on retrouve des cadavres jusqu'à Rouen, au lendemain de la Saint-Barthélemy parisienne, et à Orléans, le fleuve, c'est une frontière sacrée dans laquelle on se débarrasse des cadavres et dans laquelle on imagine, dans l'imaginaire eschatologique des catholiques, qu'on va purifier la cité par l'eau, qui est aussi un symbole de purification et d'eau du baptême.
Olivier Christin, cette question de l'exclusion, comme le dit Jérémy Foy, incorporée au ras du sol, ça nous oblige à réfléchir à cette question des villes, de la façon dont ces villes sont construites. On sait par exemple qu'il y a certains historiens du Moyen-Âge comme Israël Yuval qui avait réfléchi à la cohabitation dans les villes de l'espace germanique, par exemple, entre les communautés juives et les communautés chrétiennes en plein Moyen-Âge, à l'intrication, pourrait-on dire, des lieux de culte des uns et des autres qui, expliquait-il dans son livre, pouvait peut-être dire qu'il y avait eu des sortes de transferts de liturgie de la religion juive à la religion chrétienne. Là, on est dans un espace totalement séparé, pourrait-on dire, volontairement séparé, Olivier Christin.
Alors, c'est une question très importante. En effet, je suis assez frappé par ce parallèle que vous faites avec les villes de la fin du Moyen-Âge, et puis par ce que disaient Luc Dérault et Jérémy Foy. C'est-à-dire, oui, la ville du Moyen-Âge, elle est pensée comme un corps chrétien, un corps solidaire. Il y a des représentations iconographiques qui montrent ça, un tableau célèbre sur Crémone. Ce sont les habitants vivants, les protecteurs célestes, les saints patrons, les saints locaux, et les morts. Et les morts sont dans le centre-ville, ils sont des habitants comme les autres, ils participent au fond à la vie urbaine. La réforme vient briser ça en partie, en estimant que d'abord la ville, c'est d'abord un espace politique, un espace urbain, un espace économique, dont les morts sont progressivement expulsés. Alors c'est vrai que l'expulsion des cimetières hors de ville commence avant la réforme, et la réforme les accélère. Et parce qu'il n'y a plus d'intercession des morts, il n'y a plus de communion des saints, et les protecteurs célestes ne jouent évidemment pas le même rôle, et les saints patrons, dans le protestantisme que dans le catholicisme. Donc c'est vrai qu'on a cette déchirure et cette confrontation sur l'espace urbain que rappelait Jérémy Foy comme lieu d'humiliation, lieu de ségrégation, avec une volonté de part et d'autre de confessionnalisation de l'espace urbain. C'est réactivation d'anciennes processions, redressement de nouvelles statues, érection de nouvelles statues, les colonnes mariales de l'espace germanique, la Marienzäule de Prague ou de Munich, ces colonnes monumentales. Côté protestant, c'est la peinture des façades des maisons avec les versets bibliques. Donc chacun sait exactement où il est. Cela dit, il n'y a pas de ghetto confessionnel, oui. Il n'y a pas de c'est pas comme dans le cas des ghettos juifs, il n'y a pas de quartier protestant ou quartier catholique, même si on voit se regrouper les habitants en fonction d'affinités, mais c'est souvent aussi des affinités sociales ou professionnelles. Il n'y a pas véritablement de ghetto, sauf exception. La frontière, c'est bien celle qu'indiquaient Luc Dérault et Jérémy Foy, c'est la différence entre la ville et les faubourgs, ou la rive principale et la rive extérieure hors de la ville. C'est bien hors les murs ou dans les murs, avec la question qui est passionnante, moi je trouve, que la place, l'invisibilisation des minorités dissimulées, et la place des élites dès lors qu'elle bascule dans la réforme. C'est-à-dire, pour des grands nobles ou des familles nobles, basculer dans la réforme en France, c'est prendre le risque d'être éliminé de la visibilité dans l'espace public. Mmh. Voilà. Perdre des chapelles, perdre les tombeaux ad sanctos dans les cathédrales, dans les villes. Et ça, c'est un vrai enjeu. Mmh. Voilà.
Catherine de Copé.
Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Très bien, parfaitement. Catherine de Copé.
Oui, c'est d'autant plus un enjeu. Enfin, cette évolution de la ville comme corps chrétien sous la pression de la réforme, finalement, est intéressante, puisque malgré tout, à cette époque-là, on s'accomplit en public. Donc l'enjeu de ce qui va se passer en public est très intéressant. Et Jérémy Foy, vous avez beaucoup travaillé cette question de la frontière entre le dedans et le dehors, puisque cette lisière va complètement être investie par les réformés en modifiant du coup leurs habitudes sociales et politiques.
Oui, tout à fait. Les protestants qui se voient attribuer des temples si éloignées vont finalement renoncer et se cantonner à l'espace public, c'est-à-dire qu'ils vont prier chez eux.
À l'espace privé.
À l'espace privé, oui. L'espace domestique qui donc va être réinvesti d'une nouvelle valeur, une valeur refugiée. En même temps, ils se sentent intensément frustrés dans ces maisons dans lesquelles ils sont cantonnés. Ils ont le droit de prier, là on peut pas venir les déranger, mais ils ne peuvent prier qu'en famille. C'est-à-dire qu'on va venir très régulièrement compter combien ils sont. Est-ce qu'ils sont tous de la même famille?
Il y a quand même la question de la vitrine, de la fenêtre, de la façade. C'est des choses très, très, des détails sur lesquels vous avez travaillé qui sont très pertinents, très intéressants. C'est finalement, on va jouer sur ouvrir les fenêtres, ouvrir la boutique, cuisiner, etc. Les odeurs, les sons. Parlez-nous de ça.
Tout à fait. L'enjeu, ça va être comment être visible tout en étant cantonné chez soi. Eh bien, les protestants vont mettre en place un certain nombre de stratagèmes qui permettent de rester dans la légalité, c'est-à-dire rester chez soi, et en même temps d'être visible dehors. Quelques techniques. On est chez soi, on ouvre la fenêtre, un jour de carême, où il est interdit pour les catholiques de manger de la viande, on fait des saucisses et on fait sortir l'odeur et la fumée par la fenêtre. Donc techniquement, on est chez soi, on est dans la légalité, et de fait, on est dehors. Donc,
on travaille les jours fériés, par exemple, alors que théoriquement, c'est interdit. Quand on est artisan, on peut se permettre de travailler. Protestant, on travaille les jours fériés, et d'une certaine façon, on montre qu'on ne respecte pas la règle commune, enfin, la règle majoritaire, en l'occurrence, en travaillant, par exemple.
En travaillant, et en travaillant bruyamment. C'est-à-dire, on a beaucoup d'archives qui montrent que, effectivement, ils tapent... les artisans utilisent leur marteau pour faire beaucoup de bruit, c'est-à-dire qu'ici, c'est pas l'odeur, mais c'est le son qui permet de franchir cette barrière fictive qu'on les impose, qu'on leur impose de tenir. Ils restent chez soi, et pourtant, les passants dans la rue voient bien, hein, c'est une question de visibilité, voient bien que là, ce sont des protestants.
Alors, si on avance avec vous chronologiquement, Luc Desraux, vous qui êtes spécialiste justement de cette Normandie dans laquelle on veut réduire les Huguenots, donc au XVIIe siècle, on se dit, ben voilà, il y a un truc qui se passe à la fin des guerres de religion, il y a l'édit de Nantes, et l'édit de Nantes règle tous les problèmes. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on croit comprendre quand on ne connaît pas cette histoire-là. Et quand on lit effectivement la façon dont, à la fois, l'application de l'édit de Nantes sur les lieux de culte, la façon de pratiquer son culte, se fait donc dans la France de la toute fin, enfin même du tout début du XVIIe siècle, pourrait-on dire, eh bien on se dit, ça n'est pas gagné pour les protestants à ce moment-là non plus.
C'est compliqué, disons que l'édit de Nantes, comme je disais tout à l'heure, articule les choses assez simplement. Une liberté de conscience totale pour les protestants, on peut être protestant n'importe où dans le royaume, mais une liberté de culte conditionnelle, et définit en fait trois types d'exercices de la RPR, comme on disait, religion prétendue réformée, c'est une appellation officielle depuis le milieu des années 1570. Il y a des cultes de fief qui sont liés aux seigneurs protestants, il y a ce qu'on appelle des cultes de concession, deux par bailliage ou par sénéchaussée, et il y a des cultes de possession. Si vous aviez un culte protestant à certaines époques, vous pouvez le conserver après l'édit de Nantes. Et pour appliquer ces décisions, des commissaires sont envoyés dans les provinces du royaume. Alors, c'est pas du tout une nouveauté, et Jérémy Foy, dans sa thèse, l'a remarquablement montré. Il y avait des commissaires dès les années 1560, sous Charles IX, mais là, ça prend quelque chose, un aspect tout à fait systématique. Ce sont des commissions paritaires, il y a un protestant, un catholique, même si on le dit pas, c'est pas ça l'essentiel. Il travaille.
Enfin, on le dit souvent, dites-vous, parce que d'une certaine façon, ça montre la nouveauté justement de ce type de commission.
Oui, c'est ça. C'est quand même important. C'est-à-dire que c'est paritaire, hein, et ces commissaires se déplacent. Ils vont aller voir les choses sur le terrain.
Ce sont des enquêtes, en fait.
Ils vont voir où peut être situé le temple. Est-ce que ça gêne pas les catholiques? Donc c'est un travail quand même au cordeau. Alors, en Normandie, il y a deux commissions qui sont envoyées, une immédiatement après l'édit de Nantes.
En 1599.
1599-1600. Et l'autre, un peu plus tard, là, on est sous la régence de Marie de Médicis, donc sous le règne de Louis XIII, en 1611-1612, la deuxième commission faisant un travail beaucoup plus approfondi, essayant notamment de régler la question des cimetières, qui est aussi cruciale, hein, les cimetières des protestants, et essayant de localiser les choses. Et c'est ce travail vraiment au cordeau qui va asseoir la religion protestante et la, lui donner son importance, lui donner son statut,
son assise.
Une assise qui va tenir jusqu'aux années 1660.
Catherine de Copé.
Ce qui est intéressant avec ces commissaires chargés du roi, Luc Desraux, c'est qu'on bascule là dans l'histoire proprement politique, puisqu'on voit en fait ce pouvoir royal insister, voire s'opposer au pouvoir local des magistrats et des institutions des provinces. Donc c'est très intéressant.
C'est ça. Alors c'est tout le paradoxe en fait, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'édit de Nantes, s'il est appliqué, s'il fonctionne, c'est grâce à l'énergie du pouvoir royal. L'énergie henricienne, on pourrait dire. Mmh. C'est vraiment Henri IV. Et ça fait aussi toute la faiblesse. Parce qu'on sent bien que s'il n'y a pas Henri IV derrière, vu les hostilités locales, les choses seront beaucoup plus compliquées. Et c'est ce qui se passe après.
Rouen, par exemple.
Ben oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on voit bien, il y a une, à Rouen et ailleurs, bien sûr, on voit bien, il y a une assise. Il y a quelque chose de très solide, mais qui, à chaque fois, a besoin de l'aide henricienne, de l'aide d'Henri IV. Et moi, j'ai examiné, par exemple, les arrêts du Conseil du Roi. Et on voit bien qu'ils tranchent assez souvent en faveur des protestants pour établir leur lieu de culte. Par exemple, à Dieppe, le lieu de culte disparaît à la suite d'une tempête. Il va être reconstruit. Il y a plusieurs arrêts du Conseil au milieu des années 1600, entre 1600 et 1610. Et c'est grâce à Henri IV. Après, cette énergie du pouvoir royal va être contraire aux protestants et ça va complètement changer.
Oui, si on prend un autre exemple, vous citez le cas de ces protestants auxquels on impose de participer financièrement à la reconstruction d'une église, l'église de Quillebeuf, et c'est en contradiction avec l'édit de Nantes, et il va falloir batailler, remonter justement jusqu'au Conseil du Roi pour qu'on restitue les sommes qu'on a fait verser aux protestants pour construire une église. Donc on voit bien effectivement qu'il y a un débat presque financier, enfin fiscal, autour de ces questions-là.
Tout à fait. Alors là, c'est vraiment un enjeu crucial. C'est parce que là, on est vraiment dans un cas tout à fait spécifique. C'est-à-dire que le Parlement de Rouen, vous savez que sous l'Ancien Régime, pour qu'une loi soit appliquée, il faut qu'elle soit enregistrée dans les parlements du royaume. Le Parlement de Rouen enregistre l'édit de Nantes en 1599, mais écrit sur ces registres plusieurs modifications. On pense que ces modifications ne vont pas avoir de valeur juridique. Et à la suite de cette affaire de Quillebeuf, on se rend compte, qui date du début des années 1600, qu'elles ont une valeur juridique. Et donc là, il va y avoir l'énergie du pouvoir royal pour forcer le Parlement de Rouen à enregistrer l'édit de Nantes sans modification. Mais attention, le Parlement de Rouen n'enregistrera cet édit sans modification qu'après la mort d'Henri IV. Mmh. Hein, c'est une bataille de plus de 10 ans. Donc ça montre bien que les pouvoirs locaux constituent vraiment un obstacle pour les protestants.
Catherine de Copé.
Luc Desraux, vous avez relevé dans vos travaux notamment ce qu'on appelle les lettres de Jussion, qui sont en fait les lettres du pouvoir royal qui demandent au Parlement justement d'enregistrer cet édit. Et vous en avez comptabilisé pas moins de 9 sur cette dizaine d'années. C'est incroyable.
C'est ça. C'est-à-dire que donc la Jussion, c'est un commandement. Hein, donc quand le Parlement exprime des remontrances, le roi peut, c'est le droit de l'Ancien Régime, peut imposer l'enregistrement sans modification, sans condition, à la suite d'une lettre de Jussion. Mais les parlementaires continuent, malgré les désirs, ça marche pas, du roi Henri IV, continuent à exprimer des éléments qui sont tout à fait contraires au droit et à l'édit de Nantes. Donc il faut toute cette énergie henricienne qui finit par gagner, mais évidemment on comprend bien que c'est aussi la faiblesse du protestantisme qui repose sur ça seulement.
Olivier Christin, alors tout de même, dans ces années justement après l'édit de Nantes, on va enfin construire des lieux de culte, on va les développer, et il faut peut-être expliquer à nos auditeurs que dans le territoire français, il n'en reste quasiment en rien, puisqu'ils vont tous, après la révocation, ou presque après la révocation de l'édit de Nantes, être détruits, ce qui fait le malheur de tous ceux qui s'intéressent justement à la fois à la liturgie, mais aussi à la conception de ces nouveaux édifices, des édifices en rond, des édifices en carré, des édifices basilicaux, des édifices qui ont un autre plan que le plan de croix latine traditionnelle, par exemple, et qui ont disparu tous après la révocation de l'édit de Nantes, Olivier Christin.
Oui, absolument. Après la vague iconoclaste du milieu du XVIe siècle, on aura une vague iconoclaste catholique au moment de la révocation de l'édit de Nantes, avec la destruction du temple et notamment la destruction du grand temple de Charenton, qui a été représenté par plusieurs gravures et qui fait l'objet de toute une propagande hein, autour de la destruction de ce temple, qui était très intéressant sur le plan architectural. Et c'est vrai que pour faire une histoire de la construction des temples protestants en France, la documentation est pas considérable. Voilà, on a quelques images, quelques représentations, et il faut donc se reporter sur des comparaisons avec ce qui se fait dans l'espace germanique ou l'espace helvétique.
Je voulais
dire un mot sur l'énergie henricienne ou l'adhésion des protestants à un modèle monarchique centralisé fort qu'évoquait aussi Jérémy Foa sur cette question du calendrier. Et là, on a une vraie différence entre ce qui va se passer dans l'Empire ou en Suisse et ce qui se passe en France. En France, les protestants vont, par exemple, adopter la réforme du calendrier grégorien. Ils vont avoir le même calendrier que les catholiques. Mmh. Ils vont vouloir être éligibles à tous les offices de la monarchie. Et ils vont être des soutiens de la monarchie parce qu'ils savent que la monarchie est le meilleur protecteur, la monarchie henricienne, le meilleur protecteur depuis les premiers édits de pacification. Depuis 1560, il y a un lien entre pacification et renforcement du pouvoir royal, le roi comme arbitre. C'est pas du tout la même chose, et donc ça explique les différences dans l'espace germanique ou helvétique, où là on va voir se développer des systèmes de confession confessionnelle, aujourd'hui on dirait communautaires, sur des formes communautaristes qui font exister des communautés qui ont chacune leur rythme, leur espace, leur calendrier. Il y a l'Allemagne, les territoires allemands n'acceptent pas le calendrier grégorien, voilà par exemple. Et donc, c'est très différent dans la manière de s'approprier l'espace public ou dans la manière de travailler ensemble. Par exemple, dans la diète, les catholiques et les protestants ne mélangent pas leurs voix quand il s'agit d'affaires de religion. Voilà. Ça me semble vraiment une différence majeure, qui est le point central qui a été évoqué tout à l'heure, cette liberté de culte partout en France, qui fait des protestants des sujets de droit du roi, et en même temps la limitation... de conscience et en même temps la limitation de la liberté.
Ce qui nous fait penser, demain nous aurons pour invité entre autres Pierre Birnbaum, au travail de Pierre Birnbaum sur les prières pour le roi qui étaient donc régulièrement prononcées par les juifs, justement pour pouvoir dire que le roi est le protecteur aussi des minorités religieuses et de cette minorité religieuse, même si par ailleurs explique Pierre Birnbaum, eh bien le roi ne s'empêche pas à certains moments de laisser faire des pogroms ou des massacres parce que effectivement la population prise dans une sorte de moment d'antisémitisme et bien ou d'antijudaïsme va attaquer les juifs du royaume. Mais il y a cette question de la protection royale qui est parallèle, enfin en vous écoutant j'ai l'impression que c'est un peu semblable que pour les protestants, Olivier Christin.
Oui, c'est un peu semblable à certains moments.
Ce qu'indiquait
Luc Dérault, par exemple, sur l'intervention du roi, les lettres de Justion, les décisions du Conseil d'État pour faire appliquer les consignes ou les arrêts, les décisions de l'édit de Nantes, s'inversent dans les années 1560. Mmh. Et là, on voit systématiquement les arrêts du Conseil prendre le contre-pied, empêcher les enterrements de jour, avoir une interprétation totalement différente des clauses de l'édit de Nantes et restrictives. Le roi cesse d'être le protecteur de la minorité protestante, de ses sujets protestants à ce moment-là,
Luc Dérault.
Avec le règne personnel. Voilà.
Oui, alors c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, Emmanuel Laurentin, c'est-à-dire quand on regarde par exemple les discours, alors là il y a un clivage quand même nord-sud dans la France, mais quand dans la France de Louis XIV, mais quand on regarde par exemple les discours des pasteurs, y compris dans les années 1670-1680, quand les choses se sont extrêmement dégradées et qu'on est presque au bout du processus qui conduit à la révocation de l'édit de Nantes, on est frappé par un discours de soumission. Toujours, le roi, c'est vraiment le recours. Hein. Il y a toujours cette idée-là, et jusqu'au bout, et même on verra des discours toujours fidèles à la monarchie, bien sûr, après la révocation de l'édit de Nantes. Donc il y a quand même cette espérance que le roi va cesser d'être mal conseillé, en fait, et va finir par agir en faveur des communautés réformées. Donc on retrouve tout à fait ça, oui.
Avec cette idée, Luc Dérault, vous avez fait des calculs statistiques qui le montrent, mais que sous le règne de Louis XIV, 12%, voire 13% des décisions royales concernent les protestants, alors qu'ils ne concernent que moins de 5% de la population. Donc c'est une obsession de ce règne.
Tout à fait. Alors moi, j'ai regardé les arrêts du Conseil rendus en commandement. C'est un peu technique. Ce sont les arrêts du Conseil qui sont rendus en la présence du roi. Hein. C'est avec la formule à la fin de l'arrêt. Le roi étant en son conseil a décidé et décide que quand il y a le roi en son conseil, ça veut dire qu'il n'est pas là et que c'est présidé par le garde des Sceaux, le chancelier. En fait, et quand on regarde ces arrêts du conseil rendus en commandement, on voit très bien, et c'est tout à fait frappant, qu'à partir de 1661, vraiment, au début du règne personnel, il y a vraiment une logique d'exclusion des protestants, une espèce d'obsession, comme vous dites, tout à fait. C'est un sujet qui revient. Et donc là, l'idée, ça va être de réduire peu à peu les huguenots de mon ou de son royaume, comme dit le roi dans les mémoires pour l'instruction du dauphin. Réduire, c'est bien à comprendre au sens étymologique. Reducere, c'est-à-dire ramener au giron catholique. Hein, c'est vraiment ça. Et ça passe. Et vraiment, je pense que ça, c'est essentiel. Ça passe d'abord et avant tout par le droit, en fait. Les dragonnades, ça vient bien plus tard.
Jérémy Faux, hein, quand on vous lit, en particulier sur cet exemple de la ville d'Orléans, vous avez consacré un article dans l'histoire urbaine sur cette question-là, on ne peut pas s'empêcher, on a peut-être tort, parce qu'évidemment, comparaison n'est pas forcément raison en histoire à tant de distance, on ne peut pas s'empêcher de réfléchir à la question de l'arrivée d'une nouvelle religion dans l'espace public de nos villes européennes depuis quelque temps, la religion musulmane, et aux questions que vous posez pour la question du protestantisme et de l'arrivée de la religion réformée. À qui appartient la rue, par exemple, quand on entend effectivement tous ces discours sur les prières de rue depuis quelques années, on se dit, eh bien, tout compte fait, il y a bien cette question de l'espace public, de l'espace privé, de la pratique privée ou de la pratique publique de la religion qui est en jeu, et depuis longtemps dans notre société et en France en particulier, Jérémy Faux.
Oui, bien merci de soulever ce point, parce qu'en effet, moi j'écris de l'histoire sur le XVIe siècle, mais quand j'écris ça, j'ai toujours en tête le monde contemporain, il n'y a d'histoire que contemporaine, et quand j'écris, oui, je pense à l'islam en France, je pense à l'obligation, aux contraintes de prier dans les caves, et aux violences qui sont faites par l'espace à une communauté religieuse, je pense aussi à la domination de l'espace par une religion, avec les processions, avec les cloches. Évidemment, oui, quand je parle du XVIe siècle, je pense au monde contemporain et j'essaie de donner au lecteur, effectivement, des pistes pour montrer que ces questions-là, dans un contexte certes différent, se sont déjà posées à l'humanité, et en tout cas aux Français, et qu'on a tenté, au XVIe siècle, relativement mal, de les résoudre. Ce sont des questions qui suscitent des interrogations dès le XVIe siècle et qui peuvent dégénérer en violence si elles sont mal réglées.
Oui, Olivier Christin, qu'est-ce que vous pensez de ce parallélisme un peu osé peut-être entre l'arrivée d'une nouvelle religion au XVIe siècle et l'arrivée d'une autre au XXIe siècle dans l'espace public européen et français en particulier ?
Il ne m'étonne pas de Jérémy Faux, qui est très audacieux toujours, et je trouve son parallèle très intéressant. Pas parce que il s'agit de dire les problèmes sont toujours les mêmes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça a déjà
pas
été...
Du tout.
Ça, je crois que c'est vraiment le contraire de sa démarche et de ce qu'il faut faire. C'est de montrer que les questions portent sur un certain nombre d'enjeux qui ne sont pas illimités et qu'elles posent toutes des problèmes qui sont récurrents parce qu'ils mettent en jeu le lien entre, par exemple, conscience personnelle et appartenance citoyenne. Ils mettent en jeu la définition de ce que c'est que l'espace public, par exemple. L'espace public, on a beaucoup de mal à le définir. Celui qu'on définit pour l'interdiction de la cigarette, on n'a pas le droit de fumer dans l'espace public, mais on peut fumer dans la rue, n'est pas le même que l'interdiction du voile intégral dans l'espace public. Voilà, donc c'est ces questions-là qui reviennent et qui me semblent effectivement très importantes parce qu'elles mettent en jeu les rapports entre le droit et la conscience, entre les rapports entre statut de minorité et neutralisation d'un espace public. Et de ce point de vue-là, je trouve la démarche de Jérémy Faux extrêmement stimulante, extrêmement saine.
Et ça n'est pas pour reprendre encore, puisque j'ai déjà dit qu'il serait notre invité demain, les travaux de Pierre Bienbaume, mais le travail qu'il a fait sur La République et le cochon, c'est d'ailleurs sur cette question de peut-on faire gras, ne peut-on pas faire gras. à un moment ou à un autre. Et a-t-on le droit justement de manger du cochon dans y compris dans son espace privé? C'est une question qu'il a travaillé sur la longue durée depuis la Révolution française, mais qui se posait déjà au moment des guerres de religion, Olivier Christin.
Absolument, la question de est-ce qu'il y a des lieux ou des moments ou des rituels dans lesquels nous pouvons être ensemble malgré nos appartenances ou nos différences religieuses. C'est une question du XVIe siècle. Par exemple, c'est quelque chose que j'ai étudié, est-ce qu'on peut manger ensemble ou est-ce qu'on peut voter ensemble? Est-ce que les voix des catholiques et des protestants peuvent s'ajouter? Je trouve cette question de y a-t-il encore quelque chose, un lien au-delà des appartenances? Sur la question de la nourriture, c'est fondamental, c'est vrai. Il y a un très joli livre de Aïda Kanafanizer que Jérémy Foa connaît sur l'élevage du mouton dans la montagne du Liban, dans des zones de mixité religieuse, sur des communautés qui choisissent d'élever des moutons gras plutôt que le cochon pour pouvoir continuer à manger ensemble.
Et elle s'appelle comment? Redonnez-nous son nom, parce que je pense
Aïda Kanafanizer, et le livre s'appelle Munier.
Voilà. Merci beaucoup Olivier Christin. On pourra évidemment se reporter à la page de la Fabrique de l'Histoire pour pouvoir connaître les livres qui vont permettre à nos auditeurs d'aller plus loin dans leur connaissance justement de cette question de l'attribution des lieux de culte protestants ou réformés dans l'espace public européen et français en particulier au XVIe, XVIIe siècle. N'hésitez pas à aller sur le site de France Culture. Merci à vous Luc Desraux d'être venu. Merci beaucoup. Ici. Merci à Jérémy Foa d'avoir attendu et patienté au téléphone.
Merci à vous.
Et donc d'avoir participé à cette discussion. Et merci à nos collègues de la radio suisse de vous avoir accueilli dans leur studio de Lausanne, Olivier Christin. Merci. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Mona Bolivier et Aurélie Marcet. Nous avions à la technique avec nous aujourd'hui Nicolas Delmas, à la réalisation Françoise Camard. Quant à vous, je vous dis à demain, puisque vous revenez pour votre chronique mensuelle, Catherine Decopé, La Fabrique de l'Autre. Vous ne parlerez pas des protestants, on aurait pu dire par paillon.
Je vais essayer de ne pas parler des protestants,
voilà,
tout à fait.
On va parler d'autres choses demain. Et nous traiterons d'autres sujets demain, entre autres donc du Léon Blum de Pierre Birnbaum. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission de façon infinie désormais, eh bien allez sur le site tout nouveau, tout beau de la Fabrique de l'Histoire et de France Culture. Vous pouvez également laisser des commentaires en nous écrivant par l'intermédiaire de cette page de la Fabrique de l'Histoire et discuter avec nous sur le groupe Facebook de la Fabrique de l'Histoire.